qu'est-ce que c'est qu'un métier, qu'est-ce que c'est qu'un art, hein? C'est toujours des questions. C'est le monde rempli de questions, vous savez, auxquelles il est difficile de répondre, même si on se les pose à soi-même.
Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas, mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance ou de sécurité ou d'aventure. Il le sait. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, l'homme est mort.
Moi, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais aucune différence entre écrire un livre, travailler pour un film, me promener, dire des choses. Et beaucoup de choses agréables pour un tas de gens, des inconnus que je connais quelque part, je ne sais pas où. Donc j'aime beaucoup, surtout les femmes et les enfants.
Vous êtes sur Studio Zef, l'émission commence et c'est la moindre des choses. Écouter la radio, c'est dessiner des images. Elles sont dedans, elles sont dehors. On se cache pour les entendre. On ferme les yeux pour les écouter. On regarde les autres en parler. On entend ce qu'on voit. On voit ce qu'on entend. Et puis, c'est le silence partagé. Se taire ensemble pour écouter la voix de l'autre. S'allonger dans le noir, aux côtés d'inconnus, et entendre les murmures d'autres inconnus. Tout ceci est entendu à longueur d'onde l'année dernière, un festival généreux et mystérieux. On vient de loin pour finir au bout du monde, face à la mer, face au vent, face aux rêves, à l'inconnu, au géant. J'aimais beaucoup la radio, alors je me suis dit, je vais à Brest rencontrer ces gens. Ce que vous entendez ici n'est fait que de bruit entendu là-bas. Le festival Longueur d'onde, c'est ce week-end à Brest. Et pendant que vous écoutez, figurez-vous que je ne cesse d'y retourner.
Si vous voulez, vous avez tout le monde qui est aligné, tout le monde tire de partout, hein, voilà quoi. Quand vous recevez un ordre d'un officier supérieur qui vous dit « Vous faites feu », alors qu'on vient de dire qu'on n'était pas emporté, sauf que l'officier supérieur, il est derrière, il s'en fout, il est loin avec ses jumelles. Et donc, on se fait repérer par un char. Dès que vous tirez, lui, il vous repère, hein, il ne cherche pas, lui. Voilà, c'est extrêmement compliqué de faire rouler un véhicule très vite, de se mettre en position, de continuer à ajuster et de tirer en même temps. Bon, on est entraîné pour ça, donc on l'a fait, donc on a des trucs. Et les gens qui étaient derrière. Parce que derrière un char de combat, vous avez toujours des fantassins. Donc quand un véhicule explose, à plus forte raison un char, vous faites péter le véhicule, il y a de l'essence dedans, il y a du carburant, il y a des munitions. Donc je peux vous assurer que quand ça pète et c'est assez impressionnant. Mais vous êtes pris dans le truc et vous ne regardez pas. Vous faites ce que vous avez à faire, quoi. La mauvaise idée que moi j'ai eue, avec certains de mes petits collègues moins malins que les autres, c'est qu'on avait toujours tiré sur des cibles en bois, en ferraille, en tout ce que vous voulez. Et on a voulu aller voir ce que ça faisait. Après, donc la première phase de combat se fait, les chars se retirent un peu, les hélicoptères repartent, et on nous dit, vous attendez là. Et connement, on s'est dit, ben, on va y aller voir ce que ça fait. Il ne faut pas y aller. Je vous promets, il ne faut pas y aller.
Wow, tu vois, tu as un espèce de fil noir qui relie à deux trucs de l'espace. Là, il y a une grosse... Oh là, je suis dans le gaz. Une grosse seringue qui est poussée par un robot, et puis là il y a souclé la seringue un peu plus haut, il y a la seringue de morphine, elle est souclée parce que ben voilà, faut qu'on la fauche. Et donc en sortie d'opération, on filait cette pompe, donc ce fil avec un petit bouton, et j'ai droit à une dose toutes les 7 minutes. Si j'appuie avant 7 minutes, j'ai pas droit à la deuxième dose. Et donc en fait, au début, tu te rends compte de rien, t'as juste du bien-être, puis une sensation de chaleur. Mais en fait, assez vite, je m'en rendais pas compte parce qu'on plane, en fait, mais t'as aussi une sorte d'hallucination, c'est-à-dire que t'as quelqu'un qui passe, et puis tu fermes les yeux, tu vois la personne qui rentre quasiment dans un autre la même personne qui rentre dans un autre décor et puis hop, qui vit quelque chose d'autre, quoi. Comme ma frangine, elle pouvait être habillée d'une certaine façon, je fermais les yeux, était habillée d'une autre façon et puis elle disait quelque chose de complètement différent. Puis on n'entend pas le canard qui couine. Et donc on sait qu'on va être soulagé, qu'il faut attendre un petit peu plus. Parce qu'en même temps, ça soulage vraiment la douleur. C'est pas du flan, quoi. C'est pas juste pour les allumes. Voilà, c'est parti, le voyage commence.
Moi, résident de la République des auditeurs, je lève demain samedi l'état d'urgence à la radio avec Fabienne Sintès et Philippe Antoine.
Moi, résidente de la République des auditeurs, je vous convie à écouter ce samedi Bintou Simpore et la symphonie du Nova Monde.
Moi, résidente de la République des auditeurs, j'ai soutenu ce matin la cause du peuple dans le cadre des rencontres du documentaire radiophonique.
Moi, résidente de la République des auditeurs, je prône chaque jour une traversée des frissons et rêve de bâtir une forêt d'écouteurs en rêve majeur.
Moi, résidente de la République des auditeurs, je péristome tandis que tu l'envines.
Moi, résidente de la République des auditeurs, j'ai une larme du diable, car le dernier numéro est sorti.
Moi, résidente de la République des auditeurs, je passerai dimanche dans un fauteuil.
Moi, résident de la République des auditeurs, je boum méga combi.
Et moi, résident de la République des auditeurs, je Patrick Cohen, tu Rebecca Manzoni, elle Laura Adler, il Jean-Michel Apathy, nous Jean-Luc Esson, le temps d'un week-end.
Moi, résident de la République des auditeurs, je vous invite maintenant à voir le verre de la 13e édition.
Comment on fait pour les convaincre? Et surtout,
j'arrive pas à les convaincre.
Ah, ça arrive de temps en temps.
Je les ai pour moi, je les ai dans ma tête, ouais. Ça me suffit.
Ça arrive de temps en temps.
Assez souvent,
ouais. De les convaincre et...
Non, que j'arrive pas à les convaincre, ça arrive plus souvent.
On va écouter l'élément numéro 7, justement. C'est ça, l'élément numéro 7. Parce que il y a la question aussi, avec des gens comme ça, comment les mettre à l'aise? Des gens qui ne sont pas habitués à la parole, des gens qui ne sont pas habitués au micro, qui, comme vous le dites, a priori refusent la présence. Et quand ils viennent, est-ce que votre attitude est différente par rapport à des moments où vous invitez des gens qui sont plutôt habitués à venir parler de ce qu'ils font?
J'en sais rien, je crois pas, mais j'en sais rien.
Eh bien, on va écouter.
Ça m'a beaucoup coûté d'abord, parce que j'aimais beaucoup les enfants. Et ma foi, j'aurais bien pris un mari aussi. D'ailleurs, mes parents s'en étaient occupés. Ils avaient trouvé deux personnes.
Quoi, deux maris pour vous?
Enfin, sœur deux maris? Pas deux maris, mais c'était pas eux. Eux avaient trouvé quelqu'un, mais il y avait une autre personne que je connaissais bien qui avait trouvé aussi quelqu'un. Mais enfin, bon.
Faut dire que vous êtes Mimi, hein, je comprends.
Non, j'étais gay. J'étais gay, et puis voilà. Mais.
Donc les garçons n'y étaient?
Oui, c'était. Je regrettais beaucoup les enfants aussi. J'aimais pas.
Attendez, pour faire des enfants, il faut faire l'amour avec les hommes.
Oui,
d'abord.
Bien sûr, mais j'avais pas peur des hommes.
Non, et vous n'aviez pas envie de faire l'amour?
Oh, si, si. Si, mais enfin, je n'étais pas folle de ça. Mais si, je l'aurais bien fait. Oui, j'étais tout à fait normale. Oui.
Certaines mystiques, par exemple Thérèse d'Avila, dit qu'elle fait l'amour avec Dieu. Vous
oui.
Comprenez quand elle écrit ça?
Oui, oui. Moi, je ne fais pas l'amour avec Dieu, mais j'aime Dieu.
Ah, elle était très bonne.
Voilà, c'est Sœur Anne-Marie Poisson, dans Hors-Champ, en décembre 2009. J'ai cherché des renseignements sur Sœur Anne-Marie Poisson, je n'ai pas trouvé. Comment vous l'avez trouvé? Dans la croix?
Non, je l'ai trouvé parce que, figurez-vous, qu'elle dort dans un couvent pas très loin de la maison de la radio. Donc, en fait, j'avais repéré dans la rue.
Et vous lui avez proposé?
Bah oui, mais ça a été compliqué parce ouais. que elle a pas dit oui comme ça. Hein.
Bah racontez-moi.
Bah ça a été très long, ça a été toute une série d'approches successives. Et puis, elle est venue voir, elle est venue écouter, elle est restée en cabine à plusieurs reprises, elle est venue voir comment ça se passait avec d'autres, etc., etc. Puis un jour, elle a plongé, comme toute sœur poisson qui se respecte.
Je peux venir, mais c'était très bien.
Non, mais alors, je réagis par rapport à votre amitié, là, votre idée d'amitié. Ouais. Alors, il m'est arrivé, il y a 2 ans et demi, une très belle histoire, ça arrive quand même, vous voyez. Je trouve qu'à la radio, on a quelques missions obligatoires. Et notamment, je me suis assignée comme mission d'essayer d'archiver toutes les personnes qui avaient participé à la résistance et qui sont, hélas, de plus en plus en train de disparaître. Pour qu'on puisse savoir que ces personnes-là ont pu parler. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été des résistantes ou des résistants et qui n'ont pas souhaité parler, qui n'ont pas souhaité s'exprimer, y compris à l'intérieur de leur famille. Et à l'intérieur de cette quête qui m'occupe depuis pas mal d'années, j'ai appris par l'intermédiaire d'une amie qu'une de ses amies avait comme mère une dame qui a été très importante dans la résistance et qu'elle n'avait jamais parlé ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. Et que il n'y arrivait pas à faire raconter à cette personne ce qui s'était passé. Et j'ai essayé de rentrer en contact avec cette personne. Et je lui ai envoyé une lettre. Elle ne m'a pas répondu. Puis une seconde, je suis très obsessionnelle, très résistante, si j'ose dire, dans le temps. Ça a duré, j'ai dû lui envoyer 15 lettres. Elle ne m'a jamais répondu. Au bout de 3 ans et demi, cette amie m'a dit « c'est pas la peine de continuer à lui écrire, elle te répondra jamais », m'a dit mon amie. J'ai donc envoyé une dernière lettre en lui disant « je ne vous embêterai plus, je vous envoie la dernière lettre ». À chaque fois, je mettais mon numéro de téléphone sur les lettres. Eh bien, figurez-vous que le lendemain de la réception de cette lettre, cette dame, très âgée, m'a appelée et m'a dit « écoutez, c'est oui ». Cette dame s'appelle Anise Postelvinet. Elle a accepté de parler. Je lui ai proposé de venir chez elle parce que cette dame a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Elle m'a dit non, non, je viendrai à la radio. Et bien justement, à écouter tous ces sons.
Ça, c'est le mixage.
Ah, ça, c'est le mixage, oui.
Alors, comment on mélange différentes pluies?
Alors, ça, c'est le mixage, c'est encore un autre art. Mais ça, Thomas est bien plus en fait que moi. Le mixage, je ne sais pas du tout le faire. Non. Peut-être Thomas sait le faire.
Il y a des techniciens qui savent faire ça. Hein. Non, ça,
voilà,
c'est
alors,
des degrés.
Ça, c'est des catégories socio-professionnelles à la radio. C'est, il faut être technicien, il faut passer un concours très difficile. Vous êtes dans, moi j'adore les regarder faire. Hein. Vous êtes dans une régie technique et alors ils ont des machines très sophistiquées et puis ils sont comme des musiciens et oui, ils montent le son. Je vais pas faire Philippe Catherine, mais ils montent le son.
Ils enlèvent le son.
Et voilà.
Oui, une question ici. Je voulais rebondir sur la question qui avait été posée derrière moi. C'est vrai qu'on est très attachés à vos voix tous les deux, nous en tant qu'auditeurs. Je voulais savoir quel rapport vous entreteniez avec votre voix. Alors c'est peut-être une question pour vous deux. Et est-ce que vous avez une voix radiophonique et une autre voix?
Vous d'abord.
Moi j'aime beaucoup la voix de Thomas, parce qu'elle est un peu éraillée. Je vais lui dire quelque chose qui ne va pas lui faire plaisir, parce qu'il ne va pas prendre ça pour un compliment, mais pour moi, c'est un grand compliment. Je trouve que vous avez une voix à la Salvatore Adamo. J'adore Adamo.
Mais laisse mes mains sur tes hanches.
Ah non, mais c'est ton polonaise.
Voilà,
il y a
merci
une voix très grave.
Mais c'est une vraie question, est-ce qu'il y a une voix de radio et une voix de...
Ah bah non, je crois pas qu'on ait une voix de radio. Enfin, j'en sais rien pour vous, hein. Moi j'en sais rien, c'est ma voix normale.
Elle est pas posée particulièrement, elle a pas un rythme particulier au moment où le rouge se met.
Non, je crois pas. Je crois pas, on me dit que je parle lentement, mais ça, j'ai toujours parlé lentement. pas me mettre à parler vite.
Oui, moi je pense
que je parle pas d'une manière particulière quand je parle à la radio. On reproche de parler lentement, mais ça c'est depuis que je suis toute petite. Alors hein, comme je suis très vieille maintenant.
Oui, donc pour répondre, oui, je pense que en tout cas, oui, la présence du micro, moi, me fait poser ma voix un peu différemment pour qu'elle passe. Ouais.
Parce que vous mettez le casque.
Oui, effectivement, je mets le casque.
Le casque déforme la voix.
Cet entretien devient un peu trop intime. Je vous remercie beaucoup. Merci de leur
intervention. Ils ont enlevé le casque, Thomas.
Je vous remercie. Merci à vous.
Demain à l'aube, vous verrez la Martinique. Dès avant le lever du jour, j'étais sur la passerelle amirale. Des nuées épaisses entouraient le bateau. Et soudain, dans une faille, je vis une terre, toute proche, d'un verre éclatant d'émeraude. Et puis, dans un éclair, toute la trame de nuages se déchira. Une île, hérissée de pitons, de collines, plongeant brusquement dans la mer, m'apparaissait. Des baies, des promontoires, des villages sur lesquels j'essayais vainement de mettre un nom, défilaient devant moi.
Et en fait, elle a retrouvé très récemment son premier amour, qui est un homme qu'elle avait connu à 20 ans au bal. Et le lendemain, cet homme est passé en zone libre, c'était pendant la guerre, et elle ne l'a jamais revu. Et là, elle est veuve, et cet homme a surgi dans sa vie. Il lui a dit, je ne t'ai jamais oublié, mais j'ai attendu que tu sois veuve. Et donc, ils se mettent ensemble, et elle dit, la première fois, il n'y a pas eu couchage. Et puis, elle commence à expliquer que ça se passe bien avec lui et que Robert, son défunt mari, certes la caressait, mais pas longtemps. Alors que Jean, lui, le nouveau, là, qui a aussi 82 ans comme elle, eh bien, il la caresse longtemps. Déjà, c'est une chose importante dans le documentaire radio, il y a une leçon de vie. Hein, on voit tout de suite, il y a une morale, il y a des choses à retenir. Bon, ce documentaire, il a été mis en ligne, je crois, en 2006 ou 2008 sur Arte Radio. Il a été écouté des dizaines de milliers de fois, depuis peut-être des centaines de milliers de fois. Il y a des gens ici, des jeunes gens avec des parkas et des sacs à dos qui sont à Brest ce week-end et qu'ils connaissent. Quand je vais quelque part, on me dit, en général, les gens ont oublié le titre, ils l'appellent Marguerite. C'est un tout autre docu qui s'appelle Marguerite, mais bref. Donc voilà.
Et moi, je suis allé juste voir les gens qui prenaient un micro et qui gueulaient. Alors après, ils gueulent moins, ils apprennent à se discipliner, à parler un peu mieux, à être très structurés. Mais en tout cas, ça part de rencontres comme ça, l'idée de ne pas se taire.
Oui, la radio favorise la paix ou la guerre, je crois, dans un pays comme la République centrafricaine. Et avec une radio de Kelouka, ça favorise la paix. Au plus fort moment de la crise en République centrafricaine, en mars 2013, la radio avait arrêté d'émettre pendant 2 jours. Et donc, ça a été une catastrophe pour les habitants de Bangui. Et dès qu'on a repris les émissions 2 jours après, les auditeurs ont commencé à appeler automatiquement pour dire « Ouf, on a de l'espoir. Nous, on pensait que c'était fini pour nous. » On pensait que vraiment la vie s'arrêtait là, et quand la radio a repris, ça a donné de l'espoir à tout le monde. Radio Dekeluka dans un pays comme la République centrafricaine, c'est comme ça représentait tous les services dans ce pays, tous les départements, tous les ministères. Ça rendait le service d'information publique, service public. Ça représentait le ministère de la Santé, parce que toutes les victimes qui ont des blessures, au lieu d'aller à l'hôpital, préfèrent aller dans cette radio s'exprimer. Et le fait pour elles de s'exprimer et que les gens entendent, c'est suffisant pour la personne. Ensuite, aller à l'hôpital peut venir après. Les gens qui se sont fait braquer, au lieu d'aller à la police, dans un commissariat, porter plainte, préfèrent venir à Dekeluka, en parler. Et puis, même si on ne retrouve pas ce qu'on a perdu, ce n'est pas grave. L'essentiel pour nous, c'est d'intervenir sur Radio Dekeluka. Les militaires qui n'ont pas reçu leur pige, qui n'ont pas reçu leurs frais de mission, préfèrent aller dans cette radio, intervenir, en parler. Et puis, c'est largement suffisant. Les enseignants qui n'ont pas perçu leur salaire, qui ont des problèmes, qui ne veulent pas aller travailler parce qu'ils sont en grève, préfèrent aller sur Radio Dekeluka. Et le fait pour Radio Ndékiluka d'offrir l'antenne, d'ouvrir l'antenne à ces différentes catégories de personnes pour intervenir, exposer leurs problèmes. C'est vraiment quelque chose de très spécial quand même que nous vivons dans cette radio. Et pour nous, c'est une radio qui favorise la paix.
États-Unis, et si on changeait de continent avec Chlor et Gorov?
Pardon. Juste une question sur cette, parce qu'on n'a pas entendu dans l'extrait, mais sur les États-Unis, il y a quelque chose qui m'a amusé, moi. C'est, si j'ai bien compris, les grands groupes américains, pour se défendre à un moment donné, ont accusé les radios communautaires de brouiller grands groupes. Alors ça m'a quand même amusé, parce que quand on reprend justement une obsession, la radio par les nazis, mais les nazis, parmi les techniques utilisées, qu'ils voulaient utiliser pour lutter contre les voix dissidentes, c'était de brouiller les postes étrangers. Et là, on se retrouve avec une technique inverse, tout s'inverse, puisque là, c'est les grands groupes qui accusent les radios, les radios communautaires
de brouiller les
autres. Il y a cet exemple avec Simon et Garfunkel que tu peux raconter peut-être, qui est assez cocasse.
C'est le système américain est comme ça, le Congrès vote des lois, mais il y a, on le raconte dans le documentaire, il y a 23 lobbyistes par congressman. C'est-à-dire qu'il y en a quasiment autant en Europe, il y en a un peu moins, mais autant en Europe. Donc ils ont des gens qui sont là pour leur expliquer ce qu'ils doivent penser. Et c'est des gens qui n'ont évidemment pas le temps de s'impliquer dans tous les problèmes, parce que c'est trop compliqué, il y a des problèmes, tu vois, la radio c'est un des problèmes parmi tant d'autres. Donc, ils écoutent un peu ce qu'on leur demande d'écouter. Et les gens de la National Broadcast Association, donc le lobby très solide, très 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 puissant, très 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 riche, c'est aussi puissant qu'un lobby militaire ou pharmaceutique aux États-Unis, évidemment, fait de la contre-information tout le temps. Et comme les mecs du Congrès n'ont pas vraiment le temps, connaissent rien dans technique, ce n'est pas du tout leur truc, on se dit, on va raconter n'importe quoi, parce que de toute façon, ça va marcher. Et donc, ils y sont allés, mais... Et ils ont commencé par dire que les radios communautaires pouvaient brouiller, d'abord c'était les avions, ça pouvait brouiller les fréquences radio qu'utilisaient les avions et donc faire tomber les avions du ciel. C'est-à-dire qu'à un moment c'était presque comme si le 11 septembre était à cause des radios communautaires, on en arrive là. Et ils ont fait travailler des ingénieurs, des musiciens, ils ont fabriqué des CD pour les donner, parce que les exemples concrets marchent toujours très bien, pour les donner à tous les membres, les 500 et quelques membres du Congrès, en disant, vous voyez, si les radios communautaires sont autorisées sur la bande FM maintenant que nous, on l'a récupérée, et si vous venez placer des fréquences entre nos radios, ça va donner des catastrophes. Écoutez ce CD où ils avaient prétendument simulé ce que ça donnerait. Alors, c'est génial parce que les sons, c'est n'importe quoi. On a l'impression de notre rire dans la troisième dimension. Ils ont vraiment tout brouillé, un peu n'importe comment. Et ils ont pris une... Alors, je vous racontais qu'il y a 88% de républicains, 85% de blancs, mais surtout, il y a 25 chansons. On trouve les chiffres sur Internet. Enfin, les 25 premières chansons qui sont jouées aux États-Unis, c'est des chiffres colossaux, dont Simon et Garfunkel, Mrs. Robinson, qui a été joué l'équivalent de 32 ans, je crois qu'ils ont arrêté de calculer en 2008. Ça a été joué 32 ans, non-stop, mis bout à bout, c'est-à-dire que c'est joué dans tout le pays 750 fois par jour. Hein. C'est du délire, parce que c'est une chanson qui est plutôt... Bon, on est content, on l'écoute, et ça va, quoi. Et donc, ils ont utilisé cette chanson pour brouiller cette chanson, pour montrer aux gens du Congrès à quel point ça allait être catastrophique d'accepter les radios communautaires. Mais c'est des gens qui reculent devant rien. Hein. Ils disent, tant qu'on peut raconter
Christophe,
n'importe quoi...
Christophe, tu donnerais ton micro à Laure Rigorov, qui est
oui,
de toi. Avec Laure, vous êtes la voix d'un des trois documentaires dans lequel vous avez été particulièrement impliquée. Un documentaire qui a été dangereux pour vous deux?
Qui était possiblement dangereux pour nous deux, qui était surtout dangereux pour les radios auxquelles on allait rendre visite au Mexique, puisque ce sont pratiquement toutes des radios qui sont menacées, qui font l'objet de répression d'une manière ou d'une autre. Donc c'était surtout que possiblement notre présence pouvait attirer l'attention encore plus sur ces radios. Donc on essayait d'être un petit peu mobile, on n'a pas éprouvé, je dirais, véritablement de danger, si ce n'est qu'au Mexique, d'une manière générale, les médias, les journalistes en particulier, les journalistes sont extrêmement menacés. C'est un des pays où on assassine le plus de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme. Donc toutes ces radios, en fait, exercent dans ce contexte-là d'une répression qui est très forte, qui l'est d'ailleurs de plus en plus. En général, ce qu'on nous racontait, en fait, je vais essayer d'être un peu synthétique, mais au Mexique, il y a une tradition très ancienne des radios paysannes et indigènes qui servent en premier lieu à communiquer parce que les distances sont grandes, les gens avaient besoin de la radio parfois pour passer simplement des messages à quelqu'un d'autre qui était au champ ou qui était dans la vallée d'à côté. Et puis cet outil ensuite s'est développé et beaucoup de communautés se sont rendues compte que c'est un outil fondamental pour informer la population, pour donner des informations que les grands médias taisaient ou que le gouvernement avait intérêt à censurer, à museler. Donc la radio est vraiment un outil qui permet de donner une information alternative à la population. Il y a des radios qui sont des radios libres urbaines, il y a des radios communautaires dans les villages ou dans des petites villes, également des radios indigènes. Il y a certaines radios indigènes qui sont soutenues par le gouvernement et d'autres au contraire qui sont des radios libres. Nous, la plupart des radios en fait, qu'on a choisies, enfin auxquelles on s'est intéressé, sont des radios qui sont en désaccord complet avec le gouvernement, avec la politique menée par le gouvernement mexicain. Il faut rappeler que depuis 2006, le pays est à feu et à sang, qu'ils ont tous décrit, en fait, ils disent « nous sommes dans un pays qui est en guerre ». Et la radio est une manière de répondre, en fait, à la guerre qui leur est tombée sur la tête. Que dire ? Donc oui, que ces radios, en fait, une radio communautaire, d'une manière générale, peut être assez tranquille durant un temps, tant qu'elle ne crée pas un mouvement d'opposition ou un mouvement social, puisque ces radios permettent aussi de fomenter des résistances. Dans beaucoup de cas, les radios qu'on a visitées ont été créées pour accompagner un mouvement de résistance, soit un grand projet industriel. Par exemple, c'est le cas de la radio Totopo, de la radio Amilcingo, qui sont deux radios communautaires qui ont été créées en fait, pour donner des informations sur un projet. Alors, dans un cas, c'est un vaste projet qui consiste en la construction d'un gazoduc, de centrales thermoélectriques. La population locale en général est totalement désinformée, c'est-à-dire que c'est très facile pour les entreprises d'arriver et individuellement de convaincre des paysans de louer leurs terres ou de les vendre pour des tarifs absolument ridicules. Et comme la population n'est pas informée, eh bien, ces terres sont vendues. Et en général, on s'est rendu compte que ça mettait vraiment des années pour que les gens finalement réalisent ce qui se passe, quels sont les enjeux, etc. Et donc la radio sert à ça. Ces radios ont été créées pour ça. Totopo, en l'occurrence, c'est différent. Ce sont des champs d'éoliennes. Alors, nous, on a toujours cette idée en France que l'éolienne est une énergie verte. Et voilà, il se trouve que dans leur cas, la région a été littéralement toutes les terres communautaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi une législation au Mexique. Les terres sont la propriété des peuples autochtones. Et doivent être consultés sur la manière dont ils sont utilisés.
Vous racontez des dessins à la radio, c'est très compliqué.
Non, je pense que c'est joli comment vous les racontez.
Ça peut être intéressant. Donc là...
Donc là, c'est les piliers de comptoir.
Les piliers de comptoir, avec des têtes de démons, de machins... de chien avec des lunettes de soleil, le mec qui se prend le merveilleux, mais...
Est-ce que le mec, il a des lunettes aussi? Ah, je vois le chien avec les lunettes, ça y est, je vois. Mais quand vous le dites, en fait, ça paraît évident.
Mais quand je les dessine, c'est pour moi évident.
Donc vous les voyez avant,
alors que le
chien...
Alors que c'est que de l'abstrait. Et après, je noircis. Et une fois que je sais ce que je vais créer, je m'amuse à faire du noir et blanc.
C'est-à-dire que le premier, vous avez un premier geste, c'est le...
Il y a des trucs qui vont arriver tout de suite, et puis d'autres qui arrivent après.
D'accord. Et est-ce que les personnages, vous les voyez dès le début, tous, ou est-ce qu'il y en a qui apparaissent ?
Il y en a qui apparaissent, bien entendu.
C'est ça qui vous plaît, non ?
Et ça, c'est le côté rigolo. Ouais. Vous m'avez vu tout à l'heure, quand je suis là-dedans, j'oublie tout. Alors que j'écoute tout. Et je le fais depuis, depuis ma troisième, il me semble. D'ailleurs, je me suis fait virer certains cours parce que je crayonnais. Jean-Michel, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, je racontais le cours par cœur et je me faisais virer parce que tout le monde éclatait de rire.
Parce qu'en fait, quand vous dessinez, vous arrivez à vous concentrer du coup.
Je suis complètement concentré sur le...
Sur ce qui se passe
sur le son.
Ouais.
Alors, il est mignon, mon naïf, là. Avec ses yeux. Enfin, une fois qu'on a trouvé les yeux.
Oui, parce que moi, du coup, au début, c'est ce que je vous disais, je voyais des danseuses.
Et
il y en a un, deux, trois, quatre.
Ouais,
et ils dansent et ils tournent.
Donc, comme j'ai fait des dessins de danseuses, pour moi, il n'y a pas de danseuses.
Et ils sont sous une pergola.
Ok,
et, c'est le soir d'été, ça, il fait chaud.
Mais c'est... Alors, tu m'as pris qu'on y aille dormir ?
Bonjour.
Bonjour, bonsoir, non, je suis reporter.
Donc, là, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. J'ai fait de l'actualité.
Ouais.
Donc, il y avait les agriculteurs autour de la mairie en train de foutre le fumier partout. Et donc, j'étais pas ici, mais pas loin. Et je me suis mis à dessiner en attendant de pouvoir prendre mon tram.
Et ça, c'est dans votre imagination ou c'est une scène que vous avez vue ?
C'est un tout petit peu la scène que j'ai vue. Et c'est complètement mon... Enfin, la mairie, je la connais par cœur.
Hein. Ouais, voilà.
Ça y ressemble ou pas ?
Elle existe. Non.
C'est dans l'esprit qu'on y en entend, mais il a
la mairie, la mairie est là, la mairie, bah, voilà. Et voilà.
Il a bien situé la chose.
Et puis les tracteurs, et c'est la première fois que je m'amusais à faire ça. J'ai mis des points d'exclamation, des points d'interrogation partout, parce que je comprenais même pas, je comprends plus.
Début d'émission, que vous êtes parmi ceux qui ont compris ou qui font ou qui tentent de faire comprendre que dans la musique populaire, je crois que vous dites musique populaire, pas musique traditionnelle, musique populaire.
J'ai tendance à dire ça.
Voilà, il y a des éléments qui vont bien au-delà des frontières d'une région ou d'une zone linguistique. Et vous avez créé des ponts, on va dire ça, avec différentes cultures entre le centre-Bretagne. Cœur de Bretagne, le Cœur Brez, c'est comme ça qu'on dit.
Creys-Brez,
excusez-moi. Et d'autres régions très différentes, j'ai parlé des Balkans, du Moyen-Orient, enfin, selon les productions que vous avez proposées, que vous avez initiées, il y a différentes régions que vous êtes allé visiter, ça a commencé comment ? Et surtout, en fait, ça a commencé comment ? Comment il y a eu un déclic ? Comment vous avez compris qu'il y avait des ponts comme ça possibles ?
Alors, heureusement, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, Jean Durigne, qui a parlé pour toutes ces formes de musique populaire, locale, parce qu'il y a des musiques populaires qui sont aussi diffusées planétairement, et parfois elles appartiennent à notre monde. Jean Durigne décrivait ces musiques comme ayant parfois un air de famille. Donc, j'ai découvert cet air de famille assez tôt. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais lorsque j'étais adolescent, j'écoutais énormément de musique qui n'était pas celle que ma génération, mes camarades de collège écoutaient. Il y avait à l'époque seulement, et on peut les en remercier, seulement les disques qui étaient produits par Okora, et puis quelques autres productions de musique classique indienne avec Ravi Shankar.
Ça fait 25 ans.
Tes yeux me manquent déjà, ça va être une épreuve.
Ça fait fondre une femme de recevoir un message aussi.
Enfin, c'est en général dans un regard qu'on voit les choses. J'ai réalisé plusieurs fois, mais comme je vous le dis, j'en ai pas eu beaucoup.
Ça pourrait rester comme ça éternellement. C'est le soir.
le soir le plus long. C'est drôle, je suis venue ici. Avec une sorte de tranquillité, comme si j'étais sûre que c'était un moment qui allait changer ma vie. On sait qu'il va y avoir des éclaboussures, c'est inévitable. Je voudrais juste les citer. Alexandre Planck, Laure de France Culture, Justine de Brest, Michel de la librairie de longueur d'onde, Laurent, le président, Paul, la féministe qui n'aime pas le téléphone, Xavier, le chef des bénévoles, Alexandra, la radiophile allemande,
I'm not a man, 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 I'm not a man,